Radio Foot International, Annie Gasnier.
Merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI. Bien sûr, en cette journée d'automne, la première, mais alors quel automne sur Paris, un magnifique soleil brille sur la capitale française. Aujourd'hui, nous vous parlerons de football et pas de température ni de climat avec un calcio. C'est parti et c'est bien parti même pour le débutant Andrea Pirlo, le tout nouvel entraîneur de la Juventus Turin. Mais c'est bien parti aussi pour CR7, pour Zlatan, le buteur qui rajeunit à chaque match, ou presque, pour Osimhen aussi et ses partenaires napolitains. Par contre, mauvais temps pour le tricheur Luis Suarez. Matteo Cioffi nous en dira plus. Les Bavarois frappent d'entrée et leur tarif, c'est 8 buts. L'ogre annonce la couleur, mais le Borussia Dortmund est dans sa roue grâce à son buteur norvégien extraordinaire, Erling Haaland. Le RB Leipzig marque et gagne aussi. Cette Bundesliga est donc partie très fort. Procès et enquête autour du football. En Suisse, lourde réquisition contre l'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, et le président du PSG, Nasser El Khelaifi. Alors qu'à Lisbonne, l'informaticien à l'origine des Football Leaks doit s'expliquer face à des juges. Fuites illégales, mais utiles, assure l'accusé Rui Pinto. Et pour évoquer les sujets du jour, dans notre studio, Philippe Doucet est là. Bonjour, monsieur Philippe.
Bonjour, madame Annie.
Tout va bien?
Tout va bien.
Étienne Moitié est là aussi, notre confrère de l'équipe. Bonjour Étienne.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'avoir traversé la Seine pour venir nous rendre visite.
Mais pas encore à la nage, ça viendra peut-être.
Oui, mais... bah oui, bientôt.
Jacques Chirac en a parlé il y a quelques années.
Il y a quelques années.
Mais il ne l'a jamais fait, alors que moi, tout ce que je dis, je le fais.
Alors, on vous prendra en photo et on mettra ça sur le Facebook de Radio Foot. Bonjour David Lortolari.
Bonjour Annie, bonjour à tous. On essaye de ne pas tricher de ce côté-là non plus.
On essaye. Une dédicace, chers auditeurs, très spécial aujourd'hui à une petite Annie née à Ouagadougou aujourd'hui. Toutes nos félicitations à sa maman Bintou Ding et à son papa Abraham Ouedraogo, un très très fidèle auditeur de Radio Foot International. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Alice Ménard est à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti.
Sono un italiano.
Daqui a pouquinho o Massini complementa, Kulusevski, cobrança feita na área, a bola ficou com dois jogadores, era tenta a chance!
Bentancur, Ramsey, Okazuyeshi, Ronaldo, Moseu, Dezic, Cristiano Ronaldo!
Lasciatemi cantare!
Le calcio de retour et les grands rendez-vous en Italie, eh bien, le sont aussi avec les clubs et les joueurs qui ont disputé la première journée et qui étaient donc bien là. Mais ce qui défraye la chronique dans la grande botte aujourd'hui est aux limites du sportif et du chapitre judiciaire. Et nous allons commencer par cela, une affaire qui tourne autour de Luis Suarez, l'international uruguayen, qui a failli être un attaquant de la Juventus de Turin, mais pour cela, il lui fallait devenir italien, et c'est là que le scandale couve. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Racontez-nous, Matteo, le pistolero du Barça a triché à l'examen exigé pour décrocher son passeport italien.
On ne peut pas encore l'affirmer, mais on sait qu'il y a une enquête qui est en cours et qui concerne l'Université de Pérouse et quelques-uns de ses représentants qui sont accusés d'avoir truqué des examens nécessaires à obtenir le passeport communautaire donc italien. Et parmi les cas suspectés, il y a aussi celui de Luis Suarez qui a passé son test jeudi dernier. Selon des écoutes téléphoniques, les joueurs auraient obtenu les questions préalables. Ils connaissaient donc ce qu'on allait lui demander avant d'entrer en classe, mais pas l'italien, car comme on a su en lisant des écoutes téléphoniques, sa tutrice, sa prof qui devait lui apprendre l'italien, a déclaré que le joueur ne connaît absolument pas aucun mot en italien. En plus, il parle, il utilise et conjugue les verbes à l'infinitif. Mais au-delà de tout ça, il devra passer à tout prix cet examen, recevoir son passeport de citoyen communautaire, car pour lui, il y a un contrat de 10 millions d'euros qui l'attend. Voilà, donc Suarez, pour l'instant, il faut souligner, n'est pas rentré dans l'enquête, mais il pourrait l'être dans les prochaines heures, surtout si on découvre qu'il était au courant de cette combine.
Oui, apparemment, il avait eu les réponses aux questions qu'il ne comprenait pas à l'avance. Et cette université de Pérouse, me disait Mathéo, était déjà dans l'œil du cyclone parce qu'on se méfiait déjà de tous les gens qui passaient par là pour recevoir justement un passeport italien. Finalement, Philippe, vous me disiez, ça aurait été plus simple qu'il devienne espagnol.
Oui. Oui,
ça aurait été communautaire.
Non, parce que depuis le temps qu'il est en Europe, effectivement, on pouvait penser qu'il l'était déjà. Il n'avait pas fait les démarches ou il ne pouvait pas, peut-être, il n'avait pas exactement le nombre d'années qu'il le fallait. Bon, c'est des histoires un petit peu dérisoires, mais assez symboliques d'une époque où on ne passe plus rien à personne. Ce qui a un côté un peu positif d'un côté, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des passe-droits en pagaille. Bah, c'est un petit peu dérisoire aussi, parce que franchement, c'est tous ces règlements-là, à l'heure où les clubs ont tous entre 15 et 20 étrangers, c'est un peu dérisoire, franchement. À l'époque où il y avait 2-3, je veux bien, mais là, franchement, bon.
Oui, mais là, ça rentrait pas. Hein, dans le cadre, d'ailleurs, c'est pas lui, finalement, qui jouera du côté de la Juve, mais on a l'impression que l'entourage, les joueurs ou leur entourage sont prêts à tout pour un contrat de 10 millions d'euros.
Qui pouvait imaginer que Luis Suarez, qui respecte pas la règle en football, puisqu'il mord ses adversaires,
il mord les Italiens en plus.
Allez respecter donc la réglementation italienne pour obtenir son passeport.
C'est peut-être ça qui a choqué d'ailleurs. C'est peut-être ça qui a braqué la justice italienne.
Peut-être.
Non, et évidemment, blague à part. Moi, je pense quand même que c'est des symboles extrêmement forts. Donc Philippe dit, finalement, c'est un petit peu dérisoire. Il y a déjà tellement d'étrangers dans les équipes. Là, on parle quand même donc. D'un joueur donc étranger donc qui ne serait pas en situation on va dire totalement régulière pour exercer donc son métier en Italie quand on sait notamment en Italie le nombre
de migrants
qui sont là et qui rêveraient donc d'obtenir des documents qui leur permettraient tout simplement de pouvoir manger, de vivre à leur faim et d'avoir un toit. Donc je trouve ça tout à fait normal et que je pense qu'il y a même pas besoin de mettre un côté dérisoire à ça. S'il y a besoin de passer quelques diplômes que ce soit d'italien, et je pense que c'est extrêmement basique ce qui est demandé donc pour obtenir le passeport. Bah voilà, vous faites juste l'effort de le faire et vous allez empocher votre contrat de 10 millions. Bah, un contrat de 10 millions, il l'aura ailleurs de toute façon.
Apparemment, oui, mais on ne sait pas encore trop où. Un petit mot, David Mortolari.
Bah, peut-être on aurait plus de mansuétude, peut-être on serait plus cool s'il y avait un peu d'effort ou s'il y avait déjà une préparation, s'il savait parler la langue en question. Parce qu'après tout, sinon, on pourrait demander le passeport
islandais.
Entre
l'espagnol et l'italien, on peut se dire que ce n'était pas trop compliqué, quoi.
Bah, oui. Moi qui suis, par mes attaches allemandes, favorable au respect de la règle, je serais prêt à être plus... laisser plus passer s'il y avait un effort de fait, s'il y avait pour éventuellement une petite combine à l'arrivée. Ok, je veux bien, mais s'il n'y a aucun effort de fait, si on veut simplement valider un tampon ou quelque chose sans faire le moindre effort ni par la personne concernée, ni par ceux qui peuvent éventuellement le conseiller... Ça fait pas, ça donne pas une très bonne image quand même.
Du coup, il irait plutôt vers l'Atlético, où là, donc il n'aura qu'à parler espagnol, voire rester au Barça jusqu'à la fin de son contrat. Mais ça sera un autre chapitre. Revenons au ballon, revenons à la pelouse avec Matteo. Eh bien, la Juventus sans Suarez donc, mais emmené par son tout nouvel entraîneur qui est traîné son tout nouveau diplôme, Andrea Pirlo. Il a été diplômé lundi la semaine dernière.
Manière régulière.
Je crois, mais là c'est Pirlo quand même, l'élégance. Il a donc assisté à son premier match sur un banc de Serie A et une première victoire, avec en plus la manière, le nonuple champion d'Italie a impressionné dans sa victoire 3-0 donc sur la Sampdoria de Gênes. Matteo, il y avait en plus la manière du côté de la Juventus.
Oui, tout à fait. Andrea Pirlo a passé brillamment son premier test en veste d'entraîneur, travail qu'il n'a jamais fait dans toute sa vie, jusqu'à dimanche dernier, il faut le préciser. Le jeu exprimé par son équipe a été très convaincant, toute l'opinion publique italienne l'a reconnu, surtout apprécié sa vitesse de jeu, ce contrôle rapide du ballon et ce pressing très haut qui sont donc les éléments de base de sa stratégie de jeu. On a ensuite remarqué un collectif renouvelé et la Juve, à mon avis, avait besoin d'un peu plus de fraîcheur. Très beau début de l'américain Winston McKennie, très réactif. et qui rappelle un peu Edgar Davids, hein, Edgar Davids très gêné par les typologies de la vieille dame, de Néerlandais, vous vous rappelez, non? Mm-hmm. Ensuite, une mention spéciale aussi pour les jeunes défensifs, Gianluca Fabbros, hein, choisi personnellement par Pirlo dans l'équipe de la Juve des moins de 23 ans. André Alcedor qui a affronté le match de dimanche sans aucune crainte pour quelqu'un qui, avant cette rencontre, était presque un parfait inconnu aux yeux de supporters.
C'est peut-être pas un pari si risqué que ça pour la Juventus d'avoir misé sur Andrea Pirlo, Philippe Doucet.
Non, en tout cas, c'est dans l'air du temps, déjà. Donc, il aura. La Juve a d'emblée l'opinion publique derrière elle, parce qu'elle a, c'est un grand ancien qu'elle ramène. Tout le monde a envie un peu de voir autre chose, de jeunesse,
de style de jeu aussi.
Ce qui est quelque chose qui sera plus difficile à imprimer sur la durée. Ça, c'est plus dur que d'avoir un nom et d'être respecté par tout le monde. Mais, en tout cas, il apparaît tout de suite que c'est plus facile à faire quand on a le nom de Pirlo et quand on a cette ascendance et tout ce public qui est derrière. Donc ça aidera évidemment, et notamment le début de l'aventure, le moment où c'est le moins risqué, parce que le début de saison, finalement, on joue pas de choses définitives. En tout cas, l'année dernière, la Juve avait mal commencé, donc la comparaison ne peut que lui être favorable dans les premiers temps.
Et puis, c'était déjà presque un entraîneur... il avait déjà ce regard d'entraîneur quand il était à son poste dans les rangs de la Juve, Étienne Moati.
Oui, bien sûr, à partir du moment où il est descendu, donc... pour être sentinelle, quasiment presque ouais. Un poste qu'il a à moitié inventé. En tout cas, il en est vraiment le symbole. Voilà, il faisait le jeu de son équipe. Il avait une influence, que ce soit en club ou en sélection, extrêmement importante. Et puis, bon, il a quand même l'atout d'arriver dans une équipe qui est championne tous les ans, hein, quel que soit l'entraîneur. Donc,
9 fois consécutivement.
Voilà, il y a quand même un effectif absolument extraordinaire. Il y a une rigueur, il y a une culture de ce club, de la gagne, qui est vraiment remarquable. Alors, ils ont eu 2-3 petites difficultés la saison dernière en cours de saison, puis finalement tout est rentré dans l'ordre. Quand vous avez encore ce qu'ils ont aujourd'hui avec un Cristiano Ronaldo qui est encore extrêmement fin, et je pense que derrière ce sera quand même très très dur d'aller chercher la Juve.
Cristiano Ronaldo qui a marqué le troisième but de ce match, David Lortolari.
Deux éléments, Annie, il ne part pas de rien, Pirlo bien entendu, avec cette équipe, même s'il change.
Même s'il y avait beaucoup d'absents, Dybala n'était pas là, Bernardeschi, De Ligt et Alexandro quand même, qui sont
mais
habitués.
Philippe et Étienne parlaient aussi en creux du patrimoine, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur une culture, ça c'est évident. Et la deuxième chose, l'un des très rares joueurs la saison dernière, ils étaient peut-être 2-3 à tout casser, à surnager avec Schalke, c'était justement l'Américain Weston McKennie. Je suis content que Matteo le mentionne, parce que c'était un joueur dont on voyait qu'il était en progression constante, plutôt défensif, mais intéressant aussi lorsqu'il apporte quelque chose sur des coups de pied arrêtés ou lorsqu'il vient déranger l'adversaire dans la surface. Et je suis pas surpris que ça se passe bien déjà pour lui en Italie. C'est un joueur intéressant qui a du volume et qui peut encore beaucoup progresser avec sa jeunesse.
En plus, Matteo, c'est un club qui se renforce et c'est même une Juve Innamorata, comme vous m'avez dit tout à l'heure. C'est une Juve qui vient de renouer avec un joueur qu'elle avait déjà eu en prêt et qu'elle retrouve. C'est Morata qui vient d'Espagne.
Oui, c'est un peu un retour annoncé. Ça n'a pas vraiment surpris. On s'attendait qu'à un moment ou à l'autre, Morata puisse faire son retour à la Juve. Il doit beaucoup à la Juve. Avec ce club, il a vraiment fait le grand pas. Et désormais, c'est le même Pirlo qu'il a voulu parce qu'il veut miser sur sa versatilité, comme lui a certainement appris Massimiliano Allegri, qui il y a quelques années disait que l'Espagnol était un des joueurs capables de vêtir plusieurs rôles sans vraiment créer aucun problème à l'équipe. Mm-hmm. Donc avec lui, en quelque sorte, on peut jouer la Juve peut jouer la carte surprise, c'est une sorte de joker. Et ce sera intéressant de le voir à côté de Ronaldo et Dybala pour un trio qui paraît très goûteux pour la Juve.
Oui. En tout cas, rendez-vous important déjà dès la semaine prochaine pour Pirlo et ses hommes au Stadio Olimpico avec l'AS Roma en ligne de mire. À Milan, dans leur stade de San Siro, les Rossoneri ont remporté une première victoire pour cette première journée dictée par leur buteur vedette, la vedette éternelle du Milan AC.
Hernandez, Zlatan Ibrahimovic, oh, et but. L'ouverture du score signé Zlatan Ibrahimovic. 1-0 pour l'AC Milan à la 35e minute. Allez, c'est parti. Et ça fait 2-0. C'était en force et dans la lunette. Et doublé pour Zlatan Ibrahimovic.
Comme Benjamin Button.
Je l'ai souvent dit, je me sens comme Benjamin Button. Je suis né ancien et je mourrai jeune. Je blague, bien entendu. L'équipe est en forme, on est en train de bien travailler. C'est vrai, on n'est pas encore à 100%. Mais l'important, c'était de gagner ce premier match pour bien entamer ce championnat.
Et cominciare bene.
My name is Benjamin Button. And I was born under unusual circumstances.
Il y en a qui ont la chance de savoir remonter le temps. Et le grand Zlatan, eh bien, je ne sais pas, il aura 39 ans le 3 octobre prochain, peut-être ça sera 37, finalement, dans l'autre sens. Le grand Zlatan a encore frappé et il empile aussi les buts, Matteo Cioffi.
Oui, il faut dire que ce joueur, depuis qu'il a redébarqué à l'AC Milan, il a totalement changé l'esprit du groupe et sauvé une équipe l'année passée qui était au bord de la dérive. Après, vous vous rappelez, il y a eu le confinement et un autre championnat s'est ouvert. Si on totalise le point établi par l'AC Milan dans ce nouveau championnat, eh bien, Milan a totalisé plus que tous les autres, 30 points, ils auraient donc gagné le titre. Et derrière tout ça, il y a eu surtout Ibra qui est l'âme, mais aussi un talent footballistique qui ne s'épuise pas en vieillissant. C'est un peu un maître à penser, comme confirmé par nombreux joueurs du Milan qui ont répété tous la même chose. Si je suis à mon top, c'est grâce à Ibrahimovic. Ils sont tous jeunes et la formule de les entourer avec un ancien comédien et pourrait vraiment relancer les ambitions de l'AC Milan qui depuis trop d'années est loin du sommet.
L'AC Milan, effectivement, avait mal commencé aussi l'année dernière. Et c'est vrai que depuis qu'Ibrahimovic est arrivé, c'est incroyable la transformation qu'il y a eu dans cette équipe grâce à un seul homme, finalement, Étienne Moati. Parce que, comme nous dit Matteo, c'est pas seulement marquer des buts, c'est aussi un changement dans le vestiaire.
Mais absolument. Partout où il est passé, Ibrahimovic, c'est un exemple absolument incroyable. Évidemment, il y a toutes ces provocations, il y a le troisième degré qu'il utilise, donc ça nous fait sourire et ça nous plaît. Mais il y a surtout la rigueur qu'il a dans la préparation. Donc partout où il est passé, on vous dit ça, notamment au Paris Saint-Germain. Et on voit aujourd'hui ce que le Paris Saint-Germain a perdu en rigueur dans sa préparation depuis que Ibrahimovic est parti. Et puis il y a le joueur qu'il est resté, qui est absolument incroyable, à l'âge qu'il a.
Oui, parce qu'on est toujours épaté par Cristiano ou Messi qui vieillissent très bien, qui restent au top, mais lui, encore plus.
Mais oui, c'est absolument incroyable. Franchement, moi, j'ai jamais pensé qu'il puisse conserver ce niveau-là, quand on sent en plus la blessure qu'il a eu extrêmement grave il y a peu de temps, de revenir après avoir été s'exiler en championnat nord-américain, c'est proprement incroyable.
En plus, Ibrahimovic, c'était pendant le confinement, on s'en souvient, lui continuait, grâce à la Suède qui n'avait confiné personne, il continuait à s'entretenir et c'était sans doute important.
Oui, c'est ce qu'il renvoie, son ego, son aplomb, son impact, sa volonté, son professionnalisme, je crois qu'on peut aussi peut-être le résumer comme ça. Il y a quand même quelques exemples de footballeurs qui ont bien figuré jusqu'à 40, 41 ans. Après, il faut remonter peut-être un peu loin pour être au-delà, et puis c'est surtout des gardiens de but. Mais il peut encore tout à fait nous faire 2-3 saisons, 2-3 belles saisons. Et je vais pas titiller Matteo, mais peut-être que l'Italie lui correspond bien aussi. C'est peut-être aussi un championnat dans lequel il peut s'exprimer sans avoir peut-être à faire 14 ou 15 kilomètres par match. Je ne sais pas. En tout
je cas, crois qu'il essaie de dire que c'est un championnat très faible. Si je traduis un petit peu, c'est une très très grosse provocation.
Pour les pré-retraités.
C'est pour ça qu'il faut jamais laisser les Allemands gagner une Coupe d'Europe, parce que c'est un enfer. Tout d'un coup, c'est une leçon sur leçon.
Quel
insupportable.
Bon, Philippe Zlatan, vous êtes
moi,
aussi impressionné.
Oui, surtout la personnalité. Ce qui est incroyable, c'est sa personnalité. Moi,
oui, parce que ses provocations correspondent finalement aux résultats et à sa présence.
Les rares fois où je l'ai fréquenté, c'est un professionnalisme invraisemblable. Quoi. Je veux dire, quelqu'un qui avait tout compris de chaque chose, qui demande exactement ce qu'il lui faut, ce qu'il veut, ce qui est incroyable. D'un professionnalisme usant. sûrement pour tous ceux qui l'entourent, mais qui emmène tout le monde, quoi, par nature, parce que l'exemple est parfait. Quoi.
Mais ceux qui vieillissent bien au top, on a quand même remarqué, on pense à Cristiano Ronaldo, qu'ils s'entretiennent et qu'ils entretiennent effectivement beaucoup leur machine à eux,
oui,
qui est leur corps,
non,
pour être à la hauteur. Hein.
Le physique, tout naturellement. Pour l'instant, Zlatan n'est pas hors norme.
Non.
Je pense que Ronaldo a au même âge, sera peut-être
sans doute
même meilleur, j'en sais rien. Zlatan n'est plus tout à fait ce qu'il a été quand même, il faut le reconnaître. Il ne joue pas à la Ligue des Champions, il n'est pas dans le premier, il n'est pas dans le premier cercle non plus.
Ouais.
C'est là où on pourrait juger. D'ailleurs, il n'a jamais été dans ce premier cercle, puisque malheureusement, il n'a jamais gagné de Ligue des Champions ou de titre de ce genre-là.
Et un autre grognard hein, de ce championnat, je regarde David Lortolari, parce que ça doit lui plaire.
Pour David,
ce
c'est comme
terme.
Un championnat du dimanche matin. Là,
non, j'étais à tâtons. J'aimais une hypothèse.
C'est Franck Ribéry, promu capitaine avec la Viola, et la Fiorentina eh bien, a remporté elle aussi son premier match à domicile.
C'est un gamin, il a 36 ans.
Il a un an de moins. Il a un an de moins.
Il
en a 38. Ouais.
38 ans, Franck Ribéry.
Ouais. Bon. Comme quoi. Hein, ou 37, oui. En tout cas, ils ont gagné face au Torino. Et puis, il y a les Napolitains. Matteo, dernière question. Premier match, victoire à l'extérieur. Là, c'était sur la pelouse de Parme. Mertens et Insigne ont marqué, mais l'homme qui fait basculer le jeu actuellement de ses aînés à Naples, c'est le tout nouvel arrivant qu'on connaît nous ici puisqu'il vient de la Ligue 1, il vient de Lille, il était même pris Marc-Vivien Fauré en juin dernier avec RFI et France 24, c'est Victor Osimhen, le Nigérian, déjà idole à Naples.
Oui, c'est le chouchou un peu de RFI, hein, pas seulement de Gennaro Gattuso.
En tout cas, c'est quelqu'un de primé.
Oui, il faut dire qu'au Napoli, on a cette particularité qui est celle de nommer un héros dans l'équipe. On l'a fait avec Maradona, Cavani, Higuain, seulement pour en citer quelques-uns, vu que le football italien est faible, comme quelqu'un a dit, non?
Voilà, l'émission est lancée, c'est bien.
J'étais en train de réfléchir à la réponse.
On s'en est chargé.
Voilà, donc maintenant ça pourrait être autour de Victor Osimhen, le Nigérien déjà très brillant dans les matchs amicaux pré-championnat, a renversé le cours de la rencontre face à Parme, il est rentré à une demi-heure de la fin et il a électrisé ses coéquipiers, il les a vraiment réveillés. Et pratiquement, Osimhen a été présent dans toutes les actions dangereuses de son équipe, même dans les deux buts. Osimhen a montré, on peut dire aussi, un talent particulier et vraiment une vitesse remarquable. Ça faisait pas mal de temps qu'on ne voyait pas un joueur courir aussi vite ballon au pied. Et Gennaro Gattuso s'en était tout de suite aperçu. Gennaro Gattuso adore Osimhen. Et chaque fois, il le répète, il a déjà fait 3 ou 4 fois pendant les interviews, il dit, c'est moi qui l'ai choisi, je le voulais à tout prix. Et De Laurentiis a répondu à sa requête, vu qu'il a dépensé 60 millions d'euros, qui en effet est à un tout prix.
Oui, oui. Alors à tout prix, effectivement, 60, on parlait même de 80 millions du côté de Lille.
Mais
donc,
ça, les prix des transferts, on les connaît jamais.
Mais enfin, bon.
Et il arrive d'ailleurs que les 80 d'un côté, le club vendeur annonce 80 et le club acheteur annonce 60.
Évidemment,
ça arrive
aussi, parce
qu'il se passe des trucs entre les deux.
En tout cas,
mais là, en l'occurrence, quand on voit le deal, parce que Lille a récupéré des joueurs du Napoli, que parallèlement, il y a des bonus qui sont quasi impossibles. C'est-à-dire qu'on présente frontalement ces 81 millions et en fait, c'est tout de suite 70. Et quand vous comptez les jeunes que Naples a refourgués à Lille dans un deal, bon, on verra peut-être jamais ces joueurs. Voilà, c'est un deal. Donc, je crois que le prix de 60 me paraît tout à fait véridique.
Ouais.
En tout cas, se rapprocher de la vérité.
70
officiels. Moins les jeunes qui sont arrivés.
Oui, plus bon, les bonus et tout ça.
Ouais.
Étienne Moati, il a bien choisi Osimhen en allant à Naples.
Oui.
Parce qu'il
pour
était
lui,
courtisé,
oui.
Hein, il n'y avait pas que...
Mais donc on vient de débattre pendant 30 secondes sans être très sûr quel était le prix du transfert d'Osimhen. En tout cas, c'est très très cher.
Ouais.
Et on est quand même sur un joueur de 20 ans qui a évidemment un potentiel, mais qui pour le moment n'a quand même pas encore prouvé, même dans les clubs où il est passé, que c'était un joueur hors norme. Donc Naples qui n'est pas un
Charles
club...
Charleroi un peu plus, mais là l'adversité était vraiment différente, hein, David Lortola.
Oui, certes. Mais Naples n'est pas un club qui a pour habitude de dépenser beaucoup d'argent sur le marché des transferts. en général, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est eux qui vendent des joueurs très très chers aux grands clubs européens. Mmh. Et donc, il y a un vrai risque qui a été pris par Naples. Donc, évidemment, il y a un très gros potentiel. Moi, j'attends quand même de voir ce joueur donc pouvoir s'affirmer dans un championnat qui est un championnat relevé tout de même, je crois pouvoir le dire. Et en tout cas, qui est un championnat où il y a encore, même si ça a changé pas mal de tactique, et c'est un joueur donc qui va très vite balle au pied, mais qui a pas encore toute la culture tactique que doit réclamer le calcio. Donc, moi, je m'enflamme pas quand même encore complètement et j'attends de voir.
En tout cas, Naples veut, comme chaque année, certes, mais voudrait jouer dans la cour des grands là du championnat italien. Et surtout, on sait qu'il y a eu des années où ils étaient vraiment très près de la Juventus, David Lortolari.
Oui.
Et enfin réussir à atteindre le podium au moins.
Mais
revenir sur le podium.
Même si ça n'aboutissait pas au titre suprême en fin de saison, moi j'aime bien cette attitude qu'on a vue de Naples sur maintenant, ça fait un certain nombre de saisons, les dernières saisons, avec de la générosité, avec un football un peu comme ça sur le fil du rasoir, très offensif, très fin, beaucoup de combinaisons, des joueurs parfois un peu virtuoses qui certes, sur certaines actions, se perdaient ou quoi, mais il y a quelque chose qui est intéressant offensivement avec cette équipe. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Ils l'ont montré déjà à Parme sur la première journée.
La seule restriction éventuelle, c'est peut-être que cet achat prépare une vente importante,
c'est
celle de Kalidou Koulibaly, et du coup on pourrait dire que
ce qui
n'enlèverait rien à la prise de risque, à la prise de risque et à l'envie que montre l'achat de Osimhen. C'est
mais
une envie en tout cas un peu régénératrice avec des joueurs plus qui accélèrent davantage que ce qu'ils avaient jusqu'alors.
En tout cas, on reviendra aussi sur ces joueurs africains qui font le bonheur de la Serie A parce qu'ils sont à l'honneur de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui sur une double page intitulée Osimhen et ses frères qui illuminent la Serie A avec, on voit en photo, Gervinho, mais il y a aussi Bennacer, Hakimi et tout le monde. Il y a une 14 ou 15 joueurs d'après ce que j'ai compris. Grazie Matteo, merci beaucoup, à très bientôt.
Merci à vous.
Merci Matteo, ciao.
Ballon récupéré avec Thomas Müller, la frappe, elle est signée, Leon Goretzka, et ça c'est du concret. Lewandowski face à Fermann, et ça fait 3-0. Oh, dans la profondeur, Joshua Kimmich, Leroy Sané, et ça fait 7-0. La récupération, la frappe, Jamal Musiala pour le 8-0. En faveur des Bavarois.
On dirait, David Lortolari, que le Bayern ne sait pas faire autrement que d'inscrire 8 buts hein, dans les matchs fleuves.
Mais les adversaires sont peut-être faibles, c'est peut-être pour ça, non?
C'était sans doute une des explications là, pour ce match-là. Ouais.
Les Munichois entrés en fanfare donc dans leur Bundesliga, premier match. L'octuple champion, hein, c'est bien ça, d'Allemagne, huit titres consécutifs, parce qu'ils en sont à 30, hein, si je me trompe pas, a renversé donc son adversaire, Schalke 04, un triplé de Gnabry, le premier but de Leroy Sané, le coup du foulard de Lewandowski, ça a tourné à l'entraînement sur la pelouse de Munich.
Oui, et j'anticipe la question qui vient, c'est est-ce que le championnat est fini après la première journée? Bien sûr que non. Parce que oui, là, le Bayern est en pleine possession. Alors, il y avait un ou deux absents, mais sur un effectif comme ça, il n'y avait pas Alaba, il n'y avait pas Kingsley Coman, mais sur un effectif comme ça, et face à un adversaire qui était dépassé rapidement.
Par contre, il n'y avait pas Pavard et Hernandez.
Oui, ben justement, ça illustre le fait que Hansi Flick peut s'appuyer sur des joueurs qui sont tout aussi forts lorsqu'ils viennent de son banc ou lorsqu'il doit changer l'un des joueurs titulaires. C'était impressionnant, mais au Bayern, on est un peu inquiet du rythme qui arrive. Je crois que sur 97 jours entre ce match et la fin de l'année, il va y avoir 27 rencontres à disputer. Alors ça ne paraît pas comme ça forcément délirant, mais il n'y aura pas de trêve hivernale cette année et au Bayern on a peur. C'est pour ça que l'entraîneur demande tout de suite du renfort.
Parce que les Allemands s'arrêtent tous les ans.
Tous les ans,
un mois,
3, 4, 5, 6 semaines, parfois
après
plus.
Les fêtes.
Ouais. Et là, il y aura une trêve très courte.
Moins de journées.
Moins de journées. Bon, là, ça a commencé beaucoup plus tard qu'historiquement. C'est la première fois que ça commence si tard, pour des raisons qu'on connaît. Mm-hmm. Et donc, il y a quand même quelques inquiétudes au-delà de ce match et de cette équipe qui tourne formidablement. On a peur des semaines et des mois qui viennent.
Vous êtes indiqué, vous, Philippe Doucet, pour cette équipe championne d'Europe, donc?
Non, mais d'abord, il faut pas s'arrêter toujours sur l'image. Ah ben, ils viennent de gagner, donc c'est très fort, c'est intouchable, etc.
Non, c'est ces derniers temps.
Il faut quand même se rappeler
que
pendant les trois premiers mois de la saison dernière, oui, le Bayern était à la rue, ils étaient souvent quatrième, troisième, jusqu'à la trêve, et que c'est depuis depuis la reprise, en fait. Un petit peu avant. Le début de l'année, c'était mieux. Janvier, février, mars, c'était mieux.
Dès que Flick est arrivé, en fait.
Oui, non, il est arrivé en novembre, sauf erreur.
Novembre, il a eu une défaite contre Leverkusen.
Ça n'a pas été si vite que ça. À la trêve, ils sont troisième, le Bayern. Donc, faut pas croire qu'ils vont tout écraser toute l'année. Il faut pas croire. Non, mais ça, c'est l'impression qu'on a eue là, tout d'un coup, parce qu'ils ont gagné tous les matchs de Ligue des Champions, etc. Ok, très bien. Mais c'est pas l'équipe intouchable de notre époque. Enfin, pas à mon sens. Si ce n'est que là, ils sont sur une superbe série. Et effectivement, je suis d'accord avec David. Il y a quand même une vraie interrogation, puisque eux, ils ont un calendrier qui n'est le même que personne. Qui est le même que les autres Allemands, mais pas que les autres. C'est-à-dire que ils ont arrêté en juin, ils ont fait une première préparation, ils ont fait la Ligue des Champions, ils ont fait une deuxième préparation. Donc c'est un calendrier très très particulier. Et on va voir s'ils n'ont pas un creux à un moment, ce serait pas tout à fait impossible, dans l'automne notamment.
J'ai l'impression qu'Étienne Moitié n'est pas du tout d'accord avec vous.
Sûrement, ça c'est par principe.
toute cette inquiétude pour le Bayern Munich, alors, m'étonne quand même assez fortement. C'est vrai que moi aussi je suis très 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 inquiet pour ce club, vraiment, qui est sur la pente descendante. Non, mais plus sérieusement, je suis et impressionné et séduit par le Bayern, et ça pas simplement sur leur début de saison et pas simplement sur la fin de la Ligue des Champions, parce que on avait une équipe du Bayern qui nous habituait à avoir donc des scores fleuves, avoir des moments de grâce absolument incroyables, et puis elle était toujours à la merci, finalement, en tout cas dans des matchs très forts, dans des confrontations de Ligue des Champions, de perdre quelques moyens et d'être contrée.
On avait l'impression que ça déraillait parfois.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de sérieux, et en gardant la même folie, la même organisation, la même flamboyance dans le jeu offensif. Quand on voit, moi je vous vois extrêmement inquiet sur l'avenir du Bayern de cette saison, l'effectif qu'ils ont, notamment offensif et même défensif, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même eu un joueur comme Hernandez qui était sur le banc quasiment toute la saison dernière et qui aujourd'hui donc revient à retrouver tous ses moyens physiques. Il va y avoir une concurrence incroyable derrière, il va y avoir une concurrence incroyable devant et même au milieu, donc je pense qu'ils vont faire face. Moi, cette équipe, elle me séduit, mais alors de manière extraordinaire.
Dans son style et en plus peut-être dans le savoir-faire de cet entraîneur, parce que là, quand on regardait la composition, par exemple, sur ce match, qui certes est très particulier, mais parce que c'est le premier et tout, mais en tout cas, il y avait un vrai mélange entre les cadres. Alors, on voit Thomas Müller, on voit Lewandowski, et puis tous les petits jeunes, là, les Goretzka, les...
Le petit Musiala, Nabry, qu'on n'a encore jamais vu, qui est entré à 17 ans en fin de match, qui marque le but le plus... C'est le joueur le plus jeune à avoir marqué un but en Bundesliga pour le Bayern. Donc,
et,
oui.
Et on a l'impression que ce mélange, ce savant mélange, commence déjà à impressionner aussi.
Oui, et on s'est inspiré très fortement au Bayern des filières des années et des décennies passées chez les clubs qui ne pouvaient fonctionner que comme ça, c'est-à-dire avec des bons jeunes, au premier rang desquels Schalke, évidemment, avec Özil, avec Neuer, avec Goretzka, avec Sané, tous ces joueurs qui sont sortis de la formation de Schalke. Au Bayern, on s'est dit, il nous faut les meilleurs jeunes aussi, parce qu'on va pas vouloir dépenser 120, 140, 180, 200 millions d'euros pour un transfert. Ouais. Et donc, ce mélange-là, il est en cours, et il est plus visible que jamais. Et
Flick, si le Bayern se met en plus à bien former, là, ça va être dramatique.
C'est l'espoir qu'ils ont, oui. C'est l'espoir qu'ils ont.
En tout cas, ce Bayern, eh bien, dans leur calendrier super chargé et compliqué, ils joueront dès jeudi soir, et ça sera la super Coupe d'Europe, et ils vont se retrouver en plus face au FC Séville.
Grosse polémique en Allemagne, parce qu'on a réduit la jauge de supporters à moins de 10 000, alors c'était 8 000, parfois 5 000, parfois moins dans les stades
maintenant,
ce week-end.
C'est 3 000.
Je crois que c'était 20%
théorique. 20%, c'est la jauge maximale. Mais les régions peuvent décider de faire moins.
D'accord.
Et ça sera Budapest. Hein.
Budapest, on annonce 20 000 spectateurs et du coup, il y a une grosse polémique là en ce moment en Allemagne autour de ça, parce qu'on ne voit pas de cohérence entre ce qui va être proposé et ce qui va être offert au public à Budapest pour cette Super Coupe et les restrictions qu'on essaye d'appliquer en Allemagne.
Parce que le premier match s'est fait à huis clos. à cause du virus.
Bon, puis de toute façon, il y a des règles locales. Chaque pays a ses règles. Et en l'occurrence, la Hongrie permet à l'UEFA de faire un test. L'UEFA a choisi ce match pour faire un véritable test, pour voir si... montrer, je pense. Ils ont envie de montrer, l'UEFA a envie de montrer qu'on peut ramener du public dans les stades sans qu'il y ait de risque et autres, en espérant inspirer, évidemment, les élus des divers pays.
Ça, c'était la stratégie qui était celle du mois d'août, où on pensait peut-être que...
À Lisbonne, on pensait...
La pandémie était en train de descendre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que cette stratégie ne peut pas être appliquée puisque aujourd'hui la pandémie a repris un peu partout.
Et d'ailleurs, à chaque fan qui se rendra à Budapest sera offert gratuitement des tests sanguins, les tests PCR, pas sanguins, gratuits. Et effectivement, ils sauront à l'issue de ça s'ils peuvent ou non assister au match. Il y a un autre petit joueur jeune et monstrueux dans ce championnat, et lui aussi l'a marqué.
Messieurs, nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Accélération maintenant de la part de Jadon Sancho, regardez le rush d'Erling Haaland.
Et oui, un jaune et noir qui expose aussi sa jeunesse insolente. Et il est norvégien, il s'appelle Erling Haaland. Haaland, c'est vraiment... il a été préparé de cette manière-là. Là. On lui a mis tout ce qu'il fallait en homme bionique.
En tout cas, il a...
Il n'a pas gagné le Tour de France, étonnamment. étonnamment.
Il a le bon physique, pourtant.
ce qui est surprenant, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais quand même, il est arrivé dans ce championnat avec ses certitudes, sa réussite, et il a tout de suite fonctionné à plein régime. Il a marqué, il a été brillant, etc.
On se souvient contre le PSG en Ligue des Champions.
Là, on pourrait se dire, bon, il va falloir qu'il digère ça, etc. Mais non, il avance toujours. Il est entouré de joueurs qui, eux aussi, sont insouciants. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui, en tout cas, jouent de l'avant. Et notamment Jude Bellingham, qui vient d'Angleterre, qu'on va devoir observer avec ce Borussia cette année, qui a 17 ans. Entre autres, il y en a d'autres. Il est bien entouré. Et c'est le club qui peut, bien sûr, déranger le plus le Bayern de cette saison. Pour RB Leipzig, qui va être le troisième et l'outsider, ça serait vraiment un malentendu, mais ça va être quand même aussi une belle équipe. Mais c'est bien sûr Dortmund, Annie, qui est la mieux armée, avec beaucoup de jeunesse, plus que jamais. Donc c'est un risque, et ça, il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des trous d'air, il peut y avoir des périodes de la saison où ça va pas. Mais cette jeunesse-là, elle va être spectaculaire, elle l'a été sur le premier match, et on peut leur faire confiance pour que ça recommence.
Etienne Moati, c'est la mission de l'entraîneur des jaunes et noirs, d'essayer d'être damer le pion, on va dire, au Bayern Munich.
Ils réussissent parfois dans cette tâche-là.
Ça remonte à 2013, voilà, si je me trompe.
La dernière fois en championnat, oui.
Voilà, mais pas si souvent non plus. C'est déjà un grand mérite d'être classé deuxième derrière le Bayern. Et puis, il y a eu une époque où le Bayern, quand il leur manquait un élément extrêmement important, ils venaient piocher à Dortmund, Lewandowski, Mats Hummels, qui était parti aussi à un moment donné au Bayern avant de revenir. Évidemment, Dortmund a une tradition de très beaux jeux, de jeux directs extrêmement spectaculaires. Il y a pas mal d'équipes comme ça, finalement, en Bundesliga, ça ne doit pas être si désagréable que ça à suivre comme championnat, n'est-ce pas, David?
C'est pas mal, oui. Et puis, il y a des buts, en plus.
C'est mieux qu'un championnat de vieillards.
Pizza en plus, sa retraite, en plus.
Avec du soleil, les matchs à 15h, il fait trop chaud.
Et avec, pour Dortmund, l'avancante de 20 ans qui est avec Kylian Mbappé, est le joueur que l'Europe entière souhaiterait avoir. Parce qu'on a parlé du transfert d'Osimhen tout à l'heure, c'est une extrêmement bonne pioche pour Dortmund, parce que le joueur, tant que je me souvienne, est venu pour 30 millions d'euros, qui devait être sa clause de départ là où il était auparavant.
Salzbourg.
Exactement, donc il y a vraiment... il avait déjà extrêmement prouvé à cette époque-là, et il est sur une dynamique absolument incroyable, parce que ses statistiques à lui, elles sont invraisemblables. Et quand on voit le deuxième but qu'il marque, il semble facile à mettre, mais il fait une course de 70 mètres, et j'ai regardé encore l'action avant de venir dans le studio. Être là à ce moment-là, il faut avoir une vitesse de course, parce qu'il est grand, il est costaud, il marque de la tête, il a les deux pieds, il peut être un joueur de surface et aussi un joueur en mouvement, c'est pas mal quand même.
Philippe Doucet, finalement, ce championnat, il est prometteur pour la saison qui vient.
Comme vous l'avez noté, le Bayern a gagné la Ligue. Le Bayern a gagné la Ligue des Champions. Le RB Leipzig était en demi-finale. Donc oui, évidemment, la Bundesliga, elle est évidemment très intéressante. C'est vrai que le monde francophone en général, la France s'intéresse pas beaucoup à la Bundesliga. C'est un trait de caractère. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça remonte peut-être à des années un peu plus noires, mais en tout cas, on veut toujours parler plus abondamment de la Première Ligue et de la Liga, mais c'est vrai que la Bundesliga est un très bon championnat, très agréable à suivre, avec parfois des équipes un peu porte ouverte, mais qui donne des matchs fantastiques. Ouais, Lucien Favre, on en a parlé très rapidement, mais Lucien Favre, voir jouer les équipes de Lucien Favre est un plaisir, mais permanent. C'est exactement le football qu'on a envie de voir.
C'est vrai qu'on s'amuse moins aujourd'hui avec Nice de Vieira que quand c'était Lucien
bien
Favre
sûr,
qui était l'entraîneur.
Bien sûr. Il y a une volonté de jouer qui est fantastique. Il y a en plus, vous l'avez souligné, c'est pas la peine d'y revenir, quelques joueurs effectivement intéressants, mais au-delà des individualités, il y a un cadre. Il y a un cadre idéal, des stades pleins, c'est le championnat au monde peut-être où il y a le plus de spectateurs. Je sais pas, au monde peut-être pas, mais en Europe c'est sûr.
Et où il y a des attentes pour réussir à être abonné.
Voilà.
Alors en ce moment c'est un peu compliqué.
En ce moment c'est un peu plus compliqué, mais c'est un championnat qui a des vertus. Le vrai modèle pour la France d'ailleurs, c'est la Bundesliga.
Sans doute.
Parce que c'est le modèle le plus atteignable et auquel on peut se prendre beaucoup de vertus dans ce championnat.
Il y a pas mal de similitudes en plus pour la formation. Ils sont inspirés de la France.
Il y a quand même une grande différence, c'est qu'aujourd'hui les clubs de Ligue 1 sont tous à vendre et partent donc pour des investisseurs étrangers, ce qui est impossible en Allemagne. Donc vous devez avoir un vrai potentiel économique chez vous pour pouvoir imiter l'Allemagne.
Ça, c'est un trait qu'on peut leur envier, ces capitaux investis dans le monde du football. On continue, on va débattre de sujets annexes au football.
Les Football Leaks, c'est la plus grande fuite de données de l'histoire du sport.
J'ai rien à cacher. Je suis venu tranquille. Je pars très tranquille.
Laver son linge sale sur la place publique. En ce moment, le monde du football n'offre pas toujours un très beau visage ni une très belle image. Alors en France, il y a ces insultes, racistes ou pas. 9 jours après le Classico, Étienne Moati, on n'en sort pas beaucoup des images qui surgissent, qui alimentent le débat. Bon, on verra ça quand on en saura plus, on va dire, et surtout quand la commission d'éthique, de discipline de la Ligue se sera réunie. Mais il y a aussi des procès où l'on retrouve ici le président du Paris Saint-Germain pris dans une affaire de droit télévisé avec l'ancien numéro 2 et ex-secrétaire général donc de la FIFA, Jérôme Valck. Il comparaissent, le procès s'est ouvert il y a une semaine en Suisse, donc pays où siège la FIFA et où se déroulait donc le procès. Les réquisitions sont tombées tout à l'heure en début d'après-midi. 28 mois de prison requis contre Nasser El Khelaifi, 3 ans de prison contre le français Jérôme Valck. Le résumé de l'affaire, c'est une entente entre les deux hommes pour des grosses sommes quand même.
Ils sont soupçonnés donc contre l'utilisation d'une très belle villa en Italie, d'avoir minoré des droits de télévision achetés par beIN donc pour le Moyen-Orient à la FIFA.
Pour les prochaines Coupes du Monde, celle de 28 et 32,
c'est à l'avenir. Ouais.
26 et 30. Ouais.
Oui. Alors j'ai l'impression que ces deux-là pourraient bien payer, on va dire, le climat général
de défiance
et de défiance tout à fait légitime contre la FIFA et donc contre toutes les affaires absolument sordides donc de corruption qu'il y a pu avoir à la FIFA. Après ce dossier-là, quand on le regarde plus précisément, il semble pas si évident que ça. Le contrat qui a été signé par la FIFA avec beIN Sport est un contrat qui était en nette augmentation par rapport au précédent. Donc on a du mal à mesurer donc quelle était vraiment la contrepartie. Est-ce que sur l'utilisation d'une villa, vous pouvez avoir des ventes de droits télévision de manière avantageuse? Bon, les faits montrent qu'elles n'étaient pas si avantageuses que ça, ces conditions financières. Maintenant, ce procès montre aussi toute la collusion qu'il peut y avoir entre les différents dirigeants de télévision, dirigeants de la FIFA, un petit monde où il y avait énormément d'arrangements entre amis, mais il y a aussi beaucoup d'autres affaires donc qui ne sont pas encore arrivées à terme et pour lesquelles la justice n'a pas d'éléments donc suffisamment forts pour pouvoir arriver au bout. Sans doute plus important que celui-là. Mais ces deux-là, ils sont pris dans la nasse et ces deux-là, ils vont peut-être payer un tout petit peu pour tout le monde, même s'ils ont aussi évidemment des responsabilités.
Ouais. Et quand vous parlez de collusion, c'est vrai que Nasser El Khelaifi est l'ami de l'émir du Qatar qui est propriétaire du club du PSG, et en même temps il est président du PSG, et en même temps il est responsable de la télévision beIN Sport qui rachète des droits,
et
notamment
en même temps, parce que donc il y a la FIFA mais aussi l'UEFA, et en même temps il est un membre du comité exécutif de l'UEFA, tout en achetant des droits de télévision. Donc tout ça est un monde où on se mélange un tout petit peu trop, où il y a des conflits d'intérêts, même si on tente aujourd'hui un petit peu d'assainir tout ça, mais ça va prendre du temps.
Ah ouais. Philippe, est-ce que c'est mauvais, je dirais, pour l'image du PSG ou de Nasser El Khelaifi? On se souvient quand il est arrivé, il a mis du temps à apprendre le français, mais c'est quelqu'un qui, à l'extérieur, paraît toujours un monsieur bien élevé. Et finalement, il y a toutes ces affaires, c'est pas la première fois que...
Oui, non, mais à titre personnel, il est évident que la publicité qui est faite, même si, attention, il n'est pas condamné,
ce sont des peines requises. C'est le réquisitoire pour l'instant.
Requises par le parquet, pour l'instant, il est absolument pas condamné. Enfin bon, on peut présumer que ça.
Oui, si on requiert 28 mois, c'est quand même.
Oui, c'est quand même une requête. Ans, ouais. C'est une requête quand même assez importante. Donc pour l'image personnelle du dirigeant qatarien, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle. J'ai tendance à penser que ça atteindra moins le Paris Saint-Germain que lui à titre personnel. Mais après tout, il faudra suivre les développements de l'affaire. En tout cas, j'ai l'impression aussi, c'est un volet que c'est peut-être le seul volet qu'Étienne n'a pas abordé parce qu'il a été très très complet, c'est que en fait, c'est une des premières fois qu'on s'attaque un petit peu au système sur l'Europe. Parce que jusqu'ici, il n'y a que les Américains, en fait. Depuis le FIFA Gate, il n'y a que les Américains qui avaient, et Sud-Américains, mais c'est à partir des Américains, des États-Unis, pardon, qu'ils avaient attaqué l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et autres, et condamné des tas de dirigeants.
Pour des droits télé aussi.
Pour des histoires de droits télé, de trafic et autres, d'influence. Et là, on a l'impression que l'Europe
avait été attaquée.
On a l'impression que l'Europe est en train de se mettre sur ces dossiers-là, à suivre évidemment, mais ça pourrait faire beaucoup de dégâts.
Ouais. Ça pourrait. Il y a aussi un autre procès, David Lortolari, là, c'est au Portugal. Ouais. Alors, c'est à l'encontre d'un personnage, informaticien ou hacker, évidemment, tout est dans la nuance de ces deux termes. Le procès s'est ouvert il y a une quinzaine de jours, il va durer très longtemps, parce qu'il va durer 3 mois, dit-on. Mais lui, Rui Pinto, il s'appelle ce Portugais, est à l'origine du grand déballage des documents qu'on a appelé les Football Leaks, où on a appris certaines choses, notamment les évasions fiscales, des stars et tout. Mais Rui Pinto, qui par ailleurs maintenant est devenu peut-être hacker au service de la justice portugaise, dit « Pour moi, c'est un motif de fierté et pas de honte ». Est-ce que vous comprenez que ce procès se tienne malgré tout ?
Pas si bien que ça, parce qu'effectivement au Portugal on focalise beaucoup sur cet homme, sur cette personnalité, et on comprend bien que c'est pas forcément le problème principal, que le problème principal ce serait plutôt de s'attaquer au fond de tout ce qu'il a pu révéler. Et donc ça, pour moi, c'est un peu regarder l'ensemble du problème par une petite lorgnette, où c'est ça qui me dérange un peu. Après, on peut avoir un avis très différent sur le lanceur d'alerte, favorable à ça ou contre cela. Moi, c'est ça qui me dérange un peu.
On peut y être quand même plutôt favorable.
Plutôt favorable,
parce que quand on regarde donc l'ensemble des dossiers qui ont pu être sortis par les footballiques, c'est absolument phénoménal.
Voilà.
Ça nous pousse, nous, les journalistes, à extrêmement de modestie, parce que en quelques mois ou quelques années à peine, et il est sorti davantage de d'histoires, donc absolument très graves, donc du fonctionnement du football mondial, qu'il a pu être écrit par nous-mêmes depuis 50 ans.
Ouais. Donc, franchement,
ça me paraît absolument incroyable que on puisse aujourd'hui donc être dans un procès de ce type-là, et que ce soit pas le procès des magouilles du football mondial.
Exactement.
Hein. Ouais. Et en plus, on peut rajouter, Étienne Moati, que Infantino lui-même a des problèmes avec la justice suisse.
Oui, il semblerait qu'il ait cherché un petit peu à obtenir des renseignements privilégiés donc sur les dossiers qui pouvaient le concerner. Et d'ailleurs, le magistrat qui est mêlé à ça donc a été écarté par le parquet suisse.
Ouais. Donc voilà, c'est la face occulte du football. Mais bon, on a aussi préféré parler de Haaland, de Zlatan et des championnats.
Mais ça n'empêche pas de les aimer quand même.
Non, heureusement. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à demain.